Bien, bonjour, bonsoir à tous et merci d'être ce soir autour de Jacques Lascar. Alors, je vous signale que c'est donc la dernière conférence pendant une bonne dizaine de mois. Cet amphi va être rendu indisponible parce qu'il va être en travaux. Donc, voilà, c'est... Et puis, c'est la fin de l'année, et donc vous souhaitez évidemment à tous une bonne fin d'année. Alors, Jacques Lascar est donc membre du groupe Astronomie et Systèmes Dynamiques de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides, IMCCE, de l'Observatoire de Paris, qui est donc l'institution qui est juste à côté, très différente de l'Institut d'Astrophysique. Pour des raisons historiques, mais enfin, peu importe. En tout cas, nous avons quand même de bonnes relations les uns avec les autres. Jacques Lascar est également membre de l'Académie des sciences, et c'est à ce titre qu'il va nous parler, parce qu'il a donc préparé un rapport sur le sujet qui est « La forêt française face au réchauffement climatique », un rapport de l'Académie, dont il est l'un des quatre co-auteurs, je crois.
Cinq, pardon,
il y en a cinq alors. Et donc, il va donc nous parler de l'évolution de la forêt française dans ces temps difficiles. Jacques, c'est à toi.
Merci. Ça va le son ? C'est bon ? Merci. Alors, en fait, là, j'ai des petites toupies. Et petites toupies qui m'ont été données par Bruno Manser. Bruno Manser, qui était mon ami, à qui je dédie cette conférence. Bruno Manser aurait eu 70 ans cette année. Et il était, c'est un Suisse qui était un peu en recherche d'absolu. Et en fait, il cherchait à retrouver des gens à l'état le plus naturel possible. Et il a trouvé cet absolu au sein de la forêt du Sarawak à Bornéo. Et pendant 6 ans, il a vécu auprès d'eux. Mais en fait, il y a eu une fin à ça parce que les bûcherons sont arrivés pour prélever les plus gros arbres, pour détruire la forêt. Et là, donc Bruno s'est vu obligé par la force de défendre les Penans, sa tribu c'était les Penans, et en fait, par tout un tas d'actions spectaculaires, je dirais, avant les Greta Thunberg ou les Extinction Rebellion, non violentes, hein, des actions non violentes, qu'il a, avec comme but d'interdire l'importation des bois exotiques. Donc ces petites toupies, elles ne sont pas en bois exotique, elles sont en bois de chez nous. Et voilà, Bruno Manser est venu plusieurs fois à la maison et, où il trouvait une période de calme. Et en fait, Bruno a disparu en 2000, où il est allé retourner au Sarawak, alors qu'il était interdit de séjour là-bas. Sa tête avait été mise à prix déjà par les bûcherons. Et en fait, on ne sait pas s'il a été assassiné ou s'il est mort d'un accident en essayant d'escalader un pic qui convoitait au Sarawak. Voilà, ça c'est la première annonce. La deuxième, c'est que ici je ne m'exprime pas au nom de l'Académie des sciences, je ne m'exprime pas au nom du CNRS, hein, je suis directeur de recherche au CNRS, bien que je vais montrer un grand nombre d'extraits du rapport de l'Académie des sciences dont on a parlé déjà. Mais je m'exprime en mon nom propre, hein, avec un avis qui n'est pas forcément convergent. Je ne sais même pas, je n'ai pas besoin de le savoir. C'est juste pour vous dire que je ne m'exprime pas au nom d'institution. Des fois, il y a un peu une confusion qui est faite quand quelqu'un de l'Académie ou du CNRS s'exprime. En fait, je suis aussi le président du collectif des Trois Pignons, et c'est ça un peu qui m'a amené à la forêt. En fait, La forêt des Trois Pignons, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une forêt qui jouxte, enfin, c'est une partie du massif de Fontainebleau, c'est ici. Fontainebleau est là, mais la forêt est ici. Et en 2019, il y avait un gros chantier qui était prévu ici, et on s'est sur 120 hectares, et on s'est un peu ému. On a eu un temps très court pour réagir. En gros, fin novembre, le chantier de coupe était annoncé pour le 6 janvier, avec la période de Noël entre-temps. On s'est mobilisé de manière immédiate, parce qu'on était déjà au sein d'une petite association, et on a eu 15 jours, en gros, pour arriver à comprendre le problème, ou en partie, faire un tract, faire une pétition, être dans les journaux, et surtout faire une convoquer une réunion, en gros la veille du moment où devaient se faire démarrer les coupes, en conviant l'ONF qui, au vu de la montée de la pétition, de la montée de la présence, est venue. Et on a fait aussi venir les syndicats de l'ONF pour avoir un peu une voix différente de celle de l'ONF. Et on a eu une réunion, débat, que tous ceux qui y étaient s'en souviennent. En gros, ça a duré 3 heures. La salle était pleine, il y avait 150 personnes, les gens étaient complètement survoltés. Et après 3 heures de discussion tendue, on est arrivé à l'arrêt du chantier. Donc le chantier a été arrêté, mais je dirais qu'il était, il n'était pas question de continuer, de jouer, de faire la guerre avec l'ONF, comme ça, on a autre chose à faire. Et donc, on a créé une association, le collectif des Trois Pignons, dont le but était aussi d'entrer en discussion avec l'ONF sur la gestion de la forêt pour avoir une concertation. Et en même temps, j'ai pris conscience de la complexité du problème. Le problème de la forêt, ce n'est pas un problème simple. Et j'ai proposé au sein du comité des sciences de l'environnement de l'Académie des sciences de s'intéresser à la forêt. Ça tombait bien et ça a été tout de suite repris. Et pendant 2 ans, on a œuvré au sein d'un groupe de travail qui a interviewé, vous voyez, au sein de 18 séances, interviewé 29 experts et abouti à un rapport sur la forêt française face au réchauffement climatique. L'intérêt de ce rapport, vous pouvez le télécharger avec ce QR code, c'était un peu de faire à une échelle beaucoup moindre, d'établir des faits qui soient un peu indiscutables dans le même sens que le GIEC le fait pour les problèmes de climat. Alors, en fait, au sein aussi du collectif des Trois Pignons, on a cherché à mieux comprendre la forêt à travers des suivis de MOOC sur la gestion forestière et on est devenu un réel interlocuteur pour l'ONF. Et on participe maintenant à cette concertation. Alors, la forêt, dans quel cadre ce problème se pose ? Ce problème se pose dans le cadre du réchauffement climatique, hein, et là, je tire donc cette figure bien connue du GIEC. Aujourd'hui, on est ici, et voilà les différents scénarios de prospective pour l'évolution du climat, avec des augmentations de température, vous voyez déjà aujourd'hui 1 degré, mais 2 degrés, éventuellement 3 degrés, et puis différents scénarios, un scénario bas, un scénario haut, et un scénario intermédiaire. Alors bien sûr, on voudrait plutôt aller vers le scénario bas, mais ce scénario bas, il est déjà exclu. Ce qu'on peut espérer atteindre, c'est le scénario intermédiaire, mais ceci à condition de baisser nos émissions de CO2. Ceci a été bien défini par les accords de Paris. En gros, les émissions de CO2 aujourd'hui, c'est en France, c'est 390 millions de tonnes, et il faudrait arriver à zéro. Allez, à 2050. Arriver à zéro, ce n'est pas facile. Alors, zéro, c'est, on peut se dire, c'est en, en bilan global. Ce réchauffement, comment ça se traduit ? Vous vous rappelez de la canicule de 2003 ou bien celle de 2022 ? En fait, vous voyez ici, avec les dates, c'est les températures moyennes en été, ce sont des événements extrêmes. Voici la distribution des températures moyennes dans la période passée. Là, on a en général 18, et puis là, on a eu 21, 22. C'était l'événement extrême, cette canicule. Mais si vous passez à une augmentation de température de 2 degrés, vous voyez que ça devient commun, et encore pire, avec 3 degrés. L'événement extrême d'aujourd'hui devient un événement commun, et les événements extrêmes de demain seront avec des conséquences beaucoup plus importantes. Donc, on voudrait éviter ça. Et pour éviter ça, il faut diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Pour comprendre comment se remplit l'atmosphère de CO2, on peut regarder la figure du GIEC, du rapport du GIEC. Bon, elle est un peu compliquée. Il y avait tous les bilans, vous pouvez aller la regarder. Je vous l'ai simplifiée. Voici ma version simplifiée. J'ai essayé de faire des dessins qui soient compréhensibles par tous. Voilà en gros ce qui est. On émet 9 gigatonnes de carbone par an. Sur ces 9 gigatonnes, heureusement, il y a 5 gigatonnes qui sont réabsorbées. Qui sont réabsorbées à peu près par partie égale entre les océans et la forêt. Et il reste 4 gigatonnes par an qui entrent dans l'atmosphère. Donc on a une masse de carbone dans l'atmosphère de 830 gigatonnes. Il y a 20 ans, c'était 500. Donc on a bien augmenté. Mais vous voyez l'importance de ces deux puits de carbone. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-là. Vous voyez, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste un petit phénomène. C'est la moitié de l'absorption du carbone de nos émissions. Alors, pour ça, on va regarder les forêts françaises. On va regarder à l'échelle des forêts françaises. Les forêts françaises, vous voyez, c'est séparé entre la forêt métropolitaine et puis les forêts d'outre-mer, la Guyane essentiellement. Les forêts métropolitaines, c'est 17 millions d'hectares. La Guyane, c'est 8 millions d'hectares. Donc, c'est à peu près la moitié. Mais si vous regardez ce que stockent en carbone ces forêts, vous voyez 2,8 gigatonnes pour la forêt métropolitaine et 2,4 pour la forêt guyanaise. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que la forêt guyanaise, elle stocke à l'hectare deux fois plus de carbone que la forêt métropolitaine. Le stock, c'est en gros, je vais parler de stock, je vais parler de flux. Le stock, c'est le compte en banque. C'est combien vous avez en caisse. Donc ça, c'est ce qui est en caisse. Maintenant, le flux. Le flux, c'est ce qui arrive tous les ans, une fois le bilan fait. En gros, c'est vos économies annuelles. Donc, pour la forêt métropolitaine, vous voyez, on séquestre 39 millions de tonnes de CO2 par an. À peu près un dixième des émissions. Je vous avais dit 390 millions de tonnes. Donc, un dixième des émissions sont stockées par la forêt. La forêt guyanaise, vous voyez, quasiment rien, 0,3. Pourtant, elles ont le même stock, mais pas de revenus. Alors, pourquoi ? Alors ça, c'est parce que la forêt est une forêt ancienne et la forêt est à l'équilibre. Il y a à peu près autant de mortalité que de repousse. Donc, ce n'est pas que la forêt ne croît pas, mais elle croît par... Dans tous les cas, c'est la photosynthèse qui fait que la forêt absorbe le carbone. Donc, par photosynthèse, elle absorbe du carbone, mais il y a aussi de la mortalité. Et en fait, ça s'équilibre. C'est une forêt ancienne avec un bilan de flux nul. Notre forêt métropolitaine, elle est jeune, relativement jeune, et donc toujours en croissance. Et on a un flux comme ce qui reste, qui est relativement important. Pour mieux comprendre, Ce qu'on fait quand on exploite la forêt, il faut voir les différentes catégories de bois quand on, sur la production française. Donc la récolte totale, c'est 55 millions de mètres cubes, dont une partie commercialisée, à peu près 40, et une partie autoconsommée, c'est les propriétaires qui coupent du bois. Quand les propriétaires coupent du bois, c'est en général pour se chauffer. Donc tout ça, ça part à la chaudière directement. Quand on commercialise du bois, ben, on essaye de le vendre le plus cher possible. Le plus cher possible, c'est pour faire du bois d'œuvre. Et ce bois d'œuvre, c'est ce qui va servir à faire des poutres et des planches. Mais il ne faut pas croire que quand on coupe un mètre cube ou qu'on vend un mètre cube de bois d'œuvre, on récupère un mètre cube de planche. En fait, il y a dans le sillage, il y a les deux tiers qui partent, seulement un tiers est transformé en produit fini. Sur les deux tiers qui partent, en fait, une partie part à la chaudière directement et un tiers de ce qui part ici est transformé en produit de seconde qualité, les poteaux, le papier et ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le bois d'industrie. Autrement, il y a la partie ici bois d'industrie pour 10 millions de mètres cubes qui est transformée donc en produit fini, mais un tiers part quand même à la chaufferie. Et la partie qui part directement à la chaufferie en bois d'énergie. Donc vous voyez, au total, sur la consommation globale en France, il y a les deux tiers qui partent directement à la chaudière. Donc s'ils partent directement à la chaudière, ça veut dire que ce qu'ils ont absorbé part directement dans l'atmosphère. On peut voir ce qu'il en est sur... j'ai pris l'exemple de la forêt de Fontainebleau, parce que c'est là où je suis. En fait, si on regarde la forêt de Fontainebleau, et c'est aussi le plus gros massif en Île-de-France, on a 46% en bois d'énergie, 12% en bois d'industrie seulement, c'est pas beaucoup, et 42% en bois d'œuvre, c'est plutôt pas trop mal. Si on regarde en Île-de-France, c'est bien pire. Vous voyez qu'en Île-de-France, vous avez l'essentiel part en bois d'énergie. Presque rien en bois d'industrie, et bon, un peu, mais pas tant que ça, pas tant qu'en forêt de Fontainebleau, en bois d'œuvre. Et je vous rappelle les chiffres de la moyenne nationale. Les chiffres de la moyenne nationale sont là. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en Île-de-France, on a beaucoup plus de bois énergie que la moyenne nationale et beaucoup moins de bois d'œuvre et de bois industrie. Alors pourquoi ? Et la raison ? La raison, c'est que, en fait, en Île-de-France, il n'y a plus d'industrie de transformation. Il n'y a plus de scierie. Ça, voici l'évolution des scieries depuis 85-80. Voici le nombre de scieries. Vous voyez, ça tombe quasiment à zéro. Sachant que le coût du transport augmente, en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller envoyer directement tout le bois à la chaufferie plutôt que de chercher à le transformer pour des produits finis qui seraient... Des piquets, du papier, du carton ou des panneaux d'isolation en laine de bois, par exemple. Donc ça, c'est ce qui se passe en Île-de-France. Bon, revenons un peu sur le bilan global de la forêt et le stockage du carbone dans la forêt. Le stockage du carbone dans la forêt, pour vous, la forêt, c'est les arbres. Mais en fait, les arbres ne stockent que la moitié du carbone. Vous voyez, le stock du carbone, ici, en France, c'est... 1300 millions de tonnes, mais il y a 1400 millions de tonnes dans le sol. Le sol de la forêt stocke autant, voire plus, que les arbres. Et ça, c'est dans les premiers centimètres, dans le premier mètre du sol. Il y a les racines, tout ça, mais il y a aussi toute l'activité biologique dans le sol. Si je regarde maintenant les flux, donc, la forêt, alors elle a ses 1300 millions de tonnes et elle absorbe par photosynthèse. La photosynthèse, c'est vraiment là. En fait, La photosynthèse, c'est la réaction qui fait que nous sommes ici. Sans photosynthèse, personne ne serait ici. La photosynthèse, c'est ce qui permet de transformer le CO2, d'absorber le carbone et de rejeter l'oxygène. Et c'est ce qui va former dans le bois toutes les molécules sucrées, les molécules organiques qui vont créer le bois. Donc, vous absorbez 38 millions de tonnes de carbone. Il y a une partie qui est rejetée par mortalité naturelle, vous voyez 7. Et puis, vous avez une petite partie, parce que là, c'est très lent, l'accumulation dans le sol, c'est très lent, qui s'accumule dans le sol. Donc, quand vous détruisez un sol, il a mis peut-être 200 ans à se construire, le sol. Mais plus longtemps que la forêt. Le sol met plus longtemps à se construire que la forêt. Donc ça, c'est le flux de carbone. Donc combien il reste? Eh bien, vous avez absorbé 38, vous avez rejeté 7 et quelques, il reste absorbé 30 millions de tonnes. Bon, alors est-ce que c'est fini là? Est-ce qu'on a fini avec ces 30 millions de tonnes d'absorbé? Ben non, parce qu'en fait, on a aussi la récolte. Et on récolte 20 millions de tonnes. Donc on récolte 20 millions de tonnes, ces 20 millions de tonnes vont servir à... On a un peu de perte d'abattage, elles vont servir à faire des objets finis, etc. Mais ces objets finis, ils ont une durée de vie limitée. Et donc, en fait, ces objets finis... Donc déjà, je vous ai expliqué que sur ce qu'on coupe, il y en a les deux tiers qui partent directement en fumée. Mais en plus, dans les objets finis qu'on a fabriqués, Pour ce qu'on arrive à construire, il y en a autant qui arrivent en fin de vie, quasiment. Donc le bilan total, c'est un accroissement du stockage de carbone de 0,6 millions de tonnes seulement. Et tout le reste repart dans l'atmosphère. Donc vous avez récolté 20,6 et vous renvoyez 20 dans l'atmosphère. Donc, le bilan total, ben, vous saurez le faire aussi bien que moi. Hein. Vous avez gagné 30,8 pour votre compte en banque et vous avez perdu, dilapidé 20. Combien il vous reste? Il vous reste 10. Et ça, 10, ça c'est en carbone. Quand je le convertis en CO2, il faut multiplier par 3,7 et ça fait ces 39 millions de tonnes de CO2 gagnées tous les ans par la forêt. Donc, on a évité de renvoyer dans l'atmosphère. Donc, c'est ça le puits de carbone de la forêt. Alors, je vous rappelle, l'objectif, c'est d'aller vers zéro émission. Donc, aujourd'hui, on émet 390 millions de tonnes de CO2. On en absorbe 10%, c'est-à-dire 39 millions de tonnes. Et tout le reste, il va falloir le supprimer. Alors on peut se dire, ah ben, ce serait bien, est-ce qu'on pourrait augmenter finalement ce puits? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le contraire. En fait, aujourd'hui, ça c'est les données sur les dernières années, et voilà le puits de carbone. Ce puits qui est 39 millions de tonnes ici, il était de 60 millions de tonnes en 2008. Et aujourd'hui, il est en train de se réduire. Il est en train de se réduire. Pourquoi? Eh bien, pour trois raisons. Un, à cause du réchauffement climatique, la croissance des arbres n'est pas aussi forte que prévu, parce qu'en fait, plus il fait chaud, moins les arbres poussent. La mortalité est beaucoup plus importante, 54% de mortalité en plus en 7 ans, et il y a eu aussi une augmentation des prélèvements. Donc, en fait, ça aurait tendance à vous dire... Donc la question maintenant, c'est que vous devez définir une politique publique. Vous devez décider de quoi faire pour aller vers ce zéro, vers ce bilan carbone zéro à l'échelle 2050. Je vous ai donné les éléments. Donc, qui en France définit cette politique publique? Cette politique publique, elle est définie au sein de ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. La stratégie nationale bas carbone s'est établie au sein des ministères pour, en gros, décrire la feuille de route de la France pour conduire la politique d'atténuation du changement climatique dans tous les secteurs d'activité. Donc, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, c'est ce qui va définir tous les secteurs d'activité. La forêt, l'industrie, l'agriculture, les transports, etc. Après, on a ce qui définit la politique forêt de la forêt en France, forêt publique comme forêt privée, c'est le programme national de la forêt et du bois, qui en fait, est, celle-là, la SNBC 2, a été définie en 2018, et là, ça a été fait en 2016, donc ça a été fait avant, en fait. Mais l'un précède l'autre dans la hiérarchie. Et ensuite, ce programme national, il est décliné à l'échelle locale, à l'échelle régionale, dans le programme régional de la forêt et du bois. Et vous voyez ici, ça a été fait en 2020. Ça veut dire que ce programme-là, il tenait compte du programme national, mais il tenait compte surtout de la SNBC. Il est obligé de tenir compte de la SNBC. Et ce programme régional, ensuite, il est décliné dans les documents d'exploitation des forêts. Document qui, pour la forêt de Fontainebleau, a été établi en 2016, donc qui était préalable à l'établissement de ces documents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la filière bois veut couper plus. Ça, c'est un grand principe, parce que s'ils coupent plus, ils gagnent plus d'argent. C'est peut-être pas la seule raison, mais la filière bois, c'est 400 000 emplois en France. Donc, quand s'est établi le programme national de la forêt et du bois, il y avait une forte propension à dire « on va couper plus ». Mais vous comprenez bien, dire couper plus, c'est, si je le dis comme ça, après ce que je vous ai raconté, vous allez dire « ah ben non, c'est pas ce qu'il faut faire ». Donc en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ils vont dire « il faut couper plus pour sauvegarder la planète ». Et donc, en fait, ce qui a été dit, il faut renforcer l'effet d'atténuation du changement climatique, et pour ça, il faut couper plus, il faut augmenter la coupe de 12 millions de mètres cubes par an, à l'échelle, donc rajouter 32%. Alors, et vous allez voir, je vais vous montrer un certain nombre de décisions, un certain nombre d'études. Quelle que soit l'étude, pour la filière bois, la conclusion est il faut couper plus de 10 millions de mètres cubes par an. Bon, quasiment, on pourrait donner la conclusion avant de faire l'étude. Mais bon, je vais quand même vous montrer les études. Donc là, on peut se dire, ah ben, ça a été fait un peu à la légère. Donc, quand s'est établie la stratégie nationale bas carbone, après l'établissement de ce document, les ministères se sont dit, là, on va faire une étude sérieuse. On va demander à l'IGN, on va demander à l'INRAE de prendre ses meilleurs spécialistes et de dire ce qu'il faut faire pour atténuer le réchauffement climatique. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite ici, Ouettal, c'est un gros livre. Et la conclusion, c'est, en fait, il faut couper plus. Alors, vous pouvez dire, mais pourquoi et comment ils ont fait ça ? Eh bien, je vais vous le dire comment ils ont fait ça. Je vais vous le dire. Le document, vous pouvez le lire. Il est disponible. C'est un livre qui est téléchargeable sur Internet, donc vous pouvez vérifier tout ce que je vais vous raconter. Et en fait, je vais vous le résumer en deux slides. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, ben, on va étudier, on va prendre nos simulations, et puis on va étudier trois scénarios. Un scénario où on ne coupe pas plus que maintenant, un scénario où on coupe beaucoup plus comme il a été préconisé, là c'est 12 millions de mètres cubes par an, alors ça on l'appelle dynamique. Hein, c'est toujours des mots positifs. Et un scénario intermédiaire. Alors qu'est-ce que ça donne pour le stockage du carbone ? Voilà ce que ça donne. Voilà, si on ne coupe pas plus, entre 2016 et 2050, et ça, c'est le carbone séquestré. Donc, vous voyez, on augmente. Ça, c'est si on coupe de manière dynamique. Donc là, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas photo. Là, alors, on a l'impression que si on voit ça... Là, il n'y a pas de problème, c'est quand même c'est celui-là qui gagne pour la séquestration du carbone. Donc, mais ce n'est pas toute l'histoire, parce qu'il faut aussi tenir compte des émissions évitées si on utilise des produits bois. si je me chauffe au bois, j'évite de brûler du pétrole. Si j'ai une table en bois, j'évite d'avoir construit une table en plastique. Ou une poutre en bois, j'évite d'avoir une poutre en béton. Donc on tient compte aussi de ces émissions évitées, et ça donne ces courbes-là. Les parties brunes et ici, ce sont les émissions évitées en matériaux ou en énergie. Ça, c'est leur étude. Alors, au vu de ces courbes, je vous pose la question, quel scénario choisir pour quel est le scénario qui est le meilleur pour le stockage du carbone ? Celui-là, il monte à 180, à 160. Celui-là, il monte à 140. Celui-là, il monte à 150. Lequel est le meilleur ? Vous avez l'impression que c'est le premier. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Quel scénario a choisi le ministère ? Le ministère a choisi, bien sûr, le troisième scénario, avec comme quel argument ? Renforcer l'atténuation du réchauffement climatique. Alors, on a un peu l'impression qu'on marche sur la tête, mais c'est ce qui a été fait. 400 000 emplois. Donc, c'est ce qui a été fait dans la stratégie nationale bas carbone, c'est ce qui a été dit, et donc qui aboutit à préconiser une augmentation de 37% des coupes à l'échelle 2029, qui se décline aussi dans les programmes régionaux avec la préconisation de ces augmentations de coupes. Alors, quand même, bon, là, je vous ai un peu décortiqué les choses, mais quand même, je n'ai pas été le seul à regarder ça et à trouver qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y en a d'autres qui ont... Donc, il y a eu quand même des études qui ont été faites pour voir un peu ce qui allait et ce qui n'allait pas dans ces études. Donc, il y a cette étude-là, en 2020, il y a un travail universitaire qui a été fait, qui aboutissent tous à la même conclusion, c'est que, bon, ça ne va pas. Ce n'est pas ce scénario de couper plus qui stocke le mieux le carbone. Alors, on pourrait dire, on s'en fout de stocker le carbone, et ce qu'on veut, c'est couper plus, dès le début. Ça, ce serait une chose, mais là, ce qu'on dit, c'est on coupe plus pour stocker mieux le carbone. Donc là, il y a un petit problème. Aussi, dans les études, la partie marron que je vous indiquais, c'est fait en tenant compte de cette substitution. C'est-à-dire que si je construis une table en bois, j'économise du carbone par rapport à une table en plastique. Mais tout va dépendre des facteurs qu'on met dans cette substitution. Donc ça aussi, ça a été contesté. Et ici, une étude de I4CE qui dit, attention, est-ce que ce qu'on est en train de faire là pour définir la stratégie pour le puits de carbone, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que les coefficients de substitution ont été bien faits ? Donc ça, il y a tout un tas d'interrogations dans ce sens. Juste pour vous dire que ce que je vous raconte, ce n'est pas de manière isolée. Et aussi, le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport en 2022, en fait... constatait cette dégradation du puits de carbone. Ça n'avait pas été prévu dans l'établissement de la SNBC2. Donc déjà, il y avait un problème, et en plus, il y a cette dégradation du puits de carbone. Donc, qui vient, comme je l'ai dit, de l'augmentation de la mortalité, de la baisse de la production biologique, mais aussi de l'augmentation des prélèvements. Actuellement, on est en train de définir la SNBC3, qui doit prendre la relève, avec comme objectif de continuer la diminution des émissions de carbone. Et pour ce qui est du secteur des forêts, ce n'est pas encore fini, cette SNBC3. On voit qu'ils sont un peu... C'est un document préliminaire, et ils sont un peu frileux. On ne parle pas complètement de la forêt, du bois énergie. Vous avez la courbe que je vous ai déjà montrée, qui est la courbe du puits de carbone, vous voyez, qui est en train de se dégrader. Alors, la courbe en très plein... c'est la courbe complètement établie. Mais quand on établit cette courbe, on fait une moyenne sur 5 ans. Donc il faut attendre plusieurs années pour pouvoir sortir le chiffre définitif. Mais on peut facilement, on a les données pour les années d'après, donc on peut facilement faire la projection immédiate pour les deux années qui suivent, puisque, et en fait, c'est ce qui est fait en grisé. Et vous voyez ici, donc tout ça, vous pouvez considérer que c'est consolidé jusqu'ici. Et puis après, on vous dit quoi ? On vous dit, ah ben tout d'un coup, on va tout diminuer. Donc là, il y a une baguette magique. Hein, c'est quand même bizarre. Vous êtes à pleine vitesse et on vous dit, hop, on va changer complètement de direction. Bon. Moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est douteux. C'est-à-dire que je doute fort qu'on arrive à faire un angle comme ça. Alors, bon, ce qui est mis, les mesures, ça va être d'augmenter les surfaces forestières en reprenant sur la déprise agricole, mais tout un tas de trucs qui existent déjà. Donc, comment on va faire tout d'un coup cet angle droit-là ? Bon, j'y crois fort peu. En fait, mais quand même, on voit que dans le cas des ministères, ils commencent à prendre un peu conscience du problème. Ils disent que les concertations menées dans le cadre de l'élaboration de la SNBC3 conduisent au constat partagé que les niveaux de récolte ne pourront pas être aussi élevés que ceux ambitionnés dans la SNBC2 en 2050. Hein, c'était l'augmentation dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous pourriez vous dire, bon, heureusement, on a des grandes figures assez médiatiques qui, sur les problèmes de réchauffement climatique, sur les problèmes d'énergie, vous en connaissez un en particulier, qui fait des bilans carbone. Non, vous ne voyez pas ? Jean Covici. Effectivement, qui fait des choses bien. Tout le monde a lu le monde, je ne sais pas quoi, là. Un monde sans fin. Mais alors, la filière bois est maligne. La filière bois s'est dit, tiens, je vais me reverdir. Et donc la filière bois a demandé à Carbone 4, la boîte de Jean Covici qui établit les bilans carbone, de lui établir un bilan carbone qui lui permette de continuer de faire ce qu'elle a toujours envie de faire, c'est-à-dire d'augmenter la récolte de 11 millions de mètres cubes par an. Et ça a été fait. En fait, ça a été fait, ça a été dévoilé dans une conférence de presse l'année dernière. En fait, il y a eu 36 scénarios qui ont été analysés. Bon, on n'a pas le détail dans cette restauration de ces 36 scénarios. On a juste le scénario retenu par la filière bois, qui est bien sûr le scénario qui correspondait à leur cahier des charges, augmenter la coupe de, non pas 11, mais 10. Bon, on leur a demandé de réduire un peu. Alors, bien sûr, on leur a dit, ben, il faudra que vous améliorez le bilan carbone de vos camions, tout ça, essayer aussi d'améliorer le bilan des produits en fin de vie, etc. Mais le bilan total, c'est on coupe de 10 millions de mètres cubes de plus par an. Et là, l'équation est très simple. Je vous ai montré au début. Ce qui est absorbé, c'est en gros ce qui est absorbé à la fin, c'est ce qui est absorbé moins ce qu'on a coupé. Et donc, quand le scénario de Jean Covici est fait, eh ben, c'est pas compliqué, on tue le puits de carbone. Voici le puits de carbone, et vous voyez, il n'y en a plus. On est même émetteur de carbone en 2040. Donc, c'est bien un scénario qui correspond au cahier des charges, plus 10 millions de mètres cubes par an. C'est un scénario qui, à la marge, fait quelques aménagements qui permettent de réduire les émissions, mais le bilan global, c'est la destruction du puits de carbone. Bon, à voir. Je n'ai pas vu d'écho de ça. Je n'ai pas vu d'écho pendant la conférence de presse. Personne n'a relevé ça. Je n'ai pas eu l'occasion de demander directement à Jean Covici ce qu'il en pensait ou d'avoir des échos extérieurs. Donc, à voir. Mais ça me paraît être vraiment une opération de greenwashing de la filière bois. Heureusement, il y a quand même... Bon, je ne devrais pas le dire parce que c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais il y a quand même quelqu'un qui va nous sauver, qui a fait un grand programme pour la forêt. Qui a fait un grand programme pour la forêt ? Non. Non, un grand programme pour la forêt. Un grand programme pour sauver la forêt en France. Monsieur Macron. Oui. Et il a dit, on va planter 1 milliard d'arbres. Et donc, on a des subventions pour planter. Le problème, c'est que les subventions, elles ne sont pas pour améliorer la forêt. Elles sont pour planter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut... Si vous avez une forêt, par exemple, qui a un endroit qui va bas, et vous dites, ah, ben, ce serait bien de replanter à cet endroit-là, ça n'ira pas. Parce qu'il faut planter 1200 plants à l'hectare. Donc ça ne va pas. En revanche, ce que vous pouvez dire, c'est ma forêt, elle a 20% d'arbres qui ne vont pas bien, je la rase, tout part, j'envoie tout en bois énergie, et là, j'ai la subvention pour replanter. Ça, ça marche. Et si vous replantez comme ça, en ayant fait une coupe rase, et que vos plants se retrouvent au soleil, et que ça ne reprenne pas bien, ben, ce n'est pas grave, parce que vous pouvez recommencer l'année d'après. Et vous aurez encore la subvention. Ça, c'est. Je vous conseille de regarder le documentaire Sur le front de. Oui, d'Hugo Clément. Et en fait, l'analyse de Canopé a montré que 87% des projets financés dans le cadre de ce plan de relance consistaient en découpe rase et replantation. Dans certains cas, ça se justifie. Hein, quand il y a les forêts scolytées de l'est de la France, tous les massifs étaient abîmés, donc il n'y avait pas d'autre solution. Et dans ce cas-là, c'est bien de financer en fait la coupe rase et la replantation. Mais en fait, c'est pas, ça a été dévoyé. Ça a été dévoyé parce qu'il n'y a pas assez de contrôle sur la manière dont ces mesures sont appliquées. Et là, je vous parle ici des forêts qu'on a coupées pour envoyer à la chaufferie. Donc, vous voyez toujours ce problème de bois énergie. Parce qu'en fait, actuellement, on a un très gros appel de bois énergie. Vous avez dû entendre sur la radio où toutes ces pubs de l'ADEME pour vous dire de vous chauffer au bois énergie. Et justement, tant qu'à raconter des histoires, je vais vous en raconter une. Une que vous connaissez. En fait, donc vous connaissez. Ah, mais non, en fait, ce n'est pas celle-là que je vais vous raconter. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est les fables de l'ADEME. Et alors l'ADEME, c'est un organisme très respectable, hein, c'est l'Agence de la transition écologique. Ils ne disent pas que des bêtises, attention, mais là, ils en disent une grosse. En fait, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que l'émission, quand vous brûlez du bois, des plaquettes forestières, vous émettez 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ça, c'est dans une plaquette qui a été envoyée aux municipalités pour les convaincre d'installer des chaudières à biomasse pour chauffer les collectivités. Alors, 12 grammes, alors je vous donne tout de suite le vrai chiffre, c'est 367. Mais quand on dit 12 grammes, et que c'est l'ADEME qui le dit, ça a beaucoup d'implications. Parce que ça fait, ben, ça fait la joie des vendeurs de poils, des vendeurs de tout poil. Hein, vous voyez ici, ils vont vous dire le granulé est environ 10 fois moins émetteur de CO2 que le fioul ou le gaz. Vous voyez, la chaudière à granulé, là, qui émet presque rien, alors que tous les autres émettent des grosses fumées. Et ils se basent sur l'ADEME. Vous avez là, pour l'excellence bois, 20 fois moins d'émissions par rapport au gaz. Référence source ADEME. Vous avez, si vous voulez être écologique, hein, le chauffage au bois pour limiter le réchauffement climatique, une solution écologique et économique. Et c'est pareil, la source, c'est l'ADEME. Alors là, on s'arrête, on réfléchit, et on regarde un peu ce qu'il en est. Donc, le bois énergie, comment ça marche ? Vous coupez du bois, il est vert, Donc un kilo de bois coupé, c'est un demi-kilo de bois sec. Le bois, c'est quoi ? Le bois, c'est de la cellulose. Donc on a des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène. On peut faire le bilan de masse du bois en regardant tout simplement les masses atomiques et on trouve que le carbone, c'est la moitié du bois sec. Maintenant, vous brûlez le bois. Vous brûlez le bois, eh bien, brûler le bois, c'est l'oxyder. Donc, vous avez votre molécule de cellulose, vous rajoutez de l'oxygène et vous sortez du CO2 et de l'eau. Et vos 6 atomes de carbone qui sont là se retrouvent dans 6 molécules de CO2. Donc, chaque fois que vous brûlez une molécule de cellulose, vous émettez 6 molécules de CO2. Et vous faites le compte en masse. Pour 1 kg de bois sec, vous avez 1 demi-kilo de carbone. Et donc, vous allez émettre, comme ici, le carbone, pour passer de la masse du carbone ici à la masse de la molécule de CO2, vous multipliez par 3,67, vous obtenez 1,8 kg de CO2. Donc, chaque fois que vous brûlez 1 kg de bois sec, vous émettez 1,8 kg de CO2. Et ça, vous pouvez le faire, c'est de la physique élémentaire, c'est-à-dire que vous prenez la meilleure chaudière du monde, ce sera pareil. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors maintenant, on va regarder combien d'énergie on récupère avec ce kilo de bois sec. Eh bien, en fait, vous récupérez 5 kWh. Et si vous récupérez 5 kWh, vous faites la division et vous trouvez que vous émettez 367 g de CO2 par kWh. Et ça, personne ne peut dire le contraire, pas même l'ADEME. Mais qu'est-ce qu'ils affichent ? Ils affichent 12 g. Et quand on compare aux autres combustibles, par exemple le méthane, eh bien, vous émettez 183 g de CO2 par kWh, donc vous émettez deux fois moins. Donc, en fait, c'est ça la fable de l'ADEME, c'est de faire croire que vous émettez 12 g de CO2 alors que vous en émettez 367 g. Donc là, il a disparu, l'histoire de 20 fois moins de CO2 que le gaz. Ça a disparu. Alors, quand on dit ça à quelqu'un qui est un aficionado de l'ADEME, ou même quelqu'un qui a déjà été intoxiqué par le discours de l'ADEME, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit, oui, mais le bois repousse. Le bois repousse, donc le CO2 émis par le bois va être réabsorbé par le reste de la forêt. Pas par le bois qui a été coupé, en tout cas. Alors on peut regarder, effectivement, le bois repousse, ça c'est vrai. Donc, le bois repousse, comment ça pousse une forêt ? Ben, une forêt, ça pousse comme ça. C'est-à-dire, vous démarrez, vous la plantez, là c'est l'accroissement de la forêt par an, donc la quantité de carbone absorbée, eh bien, ça monte, ça croît. Plus la forêt grandit, plus ça croît, c'est un peu comme un enfant qui grandit, il absorbe de plus en plus, et puis il arrive un moment où ça sature, et puis après, ça décroît. Donc là, en fait, l'exemple que je fais ici, ça utilise un modèle tout à fait classique, qui est encore utilisé aujourd'hui. Et puis, j'ai pris la forêt moyenne française pour faire un arbre fictif qui correspond à la forêt moyenne française. Donc, en gros, c'est pour faire en une seule courbe toute la forêt. Mais tous les arbres, toutes les forêts auront ce même schéma. Et ici, ça, c'est le bilan moyen. Donc, en fait, dans la sylviculture classique, on vous dit il faut couper à ce moment-là, au moment où on a le maximum de croissance, et après, ça décroît. Donc, ça correspondrait, dans mon arbre moyen, ici, à 85 ans. Mais là, l'âge de la forêt française, c'est 60 ans, donc on va dire on coupe ici, à ce qui correspond à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire trois scénarios. Premier scénario, je fais une coupe rase de mon hectare de forêt et je me chauffe. Donc, il y a 76 tonnes de carbone à l'hectare, mais j'ai des pertes d'abattage, je récupère 64 tonnes de carbone. Combien de temps faut-il à la forêt pour récupérer, pour absorber ces 64 tonnes ? Ben, ce n'est pas compliqué, il lui faut le même temps qu'elle a mis à pousser. Elle a mis 60 ans à accumuler ces 64 tonnes de carbone, elle va mettre 60 ans à les réabsorber à nouveau. Donc il lui faut 60 ans pour restaurer le stock. Deuxième hypothèse, je ne coupe pas ma forêt, mais je brûle du gaz. Et je me chauffe de la même manière. Combien de temps faut-il à la forêt pour absorber le gaz que j'ai émis, le CO2 que j'ai émis en brûlant du gaz ? Alors en fait, pour me chauffer de la même manière, j'ai émis deux fois moins de carbone. Donc je n'ai émis que 32 tonnes de carbone. Et ma forêt, elle est ici. Elle absorbe 1,8, près de 2 tonnes de carbone par an. Elle n'est pas ici, je ne l'ai pas mise à recommencer à zéro. Je l'ai gardée ici, je l'ai laissée continuer. Eh bien, le stock, il est récupéré en 17 ans. Alors on me dira, certains vont dire, ah oui, mais le gaz, c'est pas bien. Bon, d'accord, le gaz, en fait. Là, ce n'est pas le problème de savoir si le gaz, d'où il vient, tout ça. C'est pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour le réchauffement climatique. Mais on peut regarder, tant qu'à faire, le mix énergétique français, hors renouvelable. Donc on prend 45% de gaz, 41% d'électricité, 14% de fuel. Ça correspond à la moyenne française. Et là, il me faut 15 ans seulement pour récupérer le stock. Une autre manière de voir les choses, c'est de regarder comme ça, c'est les courbes de simulation. Voilà ce qui se passe avec le bois énergie. Vous avez votre forêt, donc là, c'est la croissance de la forêt si vous la laissez toute seule. Si vous la laissez toute seule, elle croît, et puis elle croît de moins en moins vite, et au bout d'un moment, au début, elle croît de plus en plus vite, et puis après, de moins en moins vite, elle est vieille, et bon, ça continue. Elle continue de croître, mais très, très, très lentement. Et là, vous dites, je coupe à 60 ans, donc on a coupé, et vous la laissez repousser. Vous recoupez, vous laissez repousser. Alors, le stock en forêt, c'est la courbe verte. Vous avez coupé, vous avez laissé repousser, etc. Mais dans le calcul, il ne faut pas regarder uniquement le stock de carbone en forêt, il faut prendre le stock global de carbone, contenant aussi le gaz, et donc le stock que vous avez évité de consommer ici. Donc, ça donne la courbe rouge résultante qui tient compte de cet évitement de consommation. Et là, vous voyez, effectivement, au bout d'un moment, vous récupérez, vous êtes même meilleur que la libre évolution, mais au bout de combien de temps ? Au bout de 240 ans. Alors, est-ce qu'on a 240 ans pour le réchauffement climatique ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, si on fait le même calcul avec le bois d'œuvre, si je fais le même calcul avec le bois d'œuvre, c'est beaucoup plus favorable. Vous avez, parce qu'en fait, vous avez le stock, vous avez une partie que vous stockez dans le matériau, mais le matériau, les planches que vous avez faites, mais ils vont se dégrader, donc ça se dégrade. Mais vous avez le coefficient de substitution matériaux, c'est-à-dire l'énergie que vous avez évité de consommer. Et à ce moment-là, vous obtenez une courbe, la courbe rouge, et c'est vrai que là, vous avez quelque chose qui est plus proche de la libre évolution. Vous pouvez vous dire qu'au bout d'un moment, ben, beaucoup moins de temps, seulement 100 ans, vous êtes meilleur que la libre évolution. On peut, dans ce bois d'œuvre, ici, j'ai mis 25 ans de demi-vie de bois d'industrie, c'est les cartons, les piquets, tout ça. Je peux mettre moins, mais ça ne change pas grand-chose, parce que le fait de mettre moins pour le bois d'industrie, ça change juste à la marge, en fait, ces courbes, puisque l'essentiel vient de cette substitution matériaux qu'il y a là. On peut regarder, en revanche, ce qui se passe si je coupe mon bois plus tard, c'est-à-dire au lieu de le couper à 60 ans, je le coupe à 85 ans, qui est le temps optimal que je vous ai dit tout à l'heure, ben on retrouve effectivement que c'est optimal. Hein, c'est-à-dire que là, vous êtes bien meilleur que tout à l'heure. Vous avez une séquestration qui est bien meilleure que celle de tout à l'heure. Donc on pourrait dire, ben, il vaut mieux faire du bois d'œuvre, donc des gros arbres, et puis les couper le tard. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'est en train de faire la filière bois. On a aussi le bois d'industrie. Bon, là, je vais passer assez rapidement parce que l'heure tourne. Mais en gros, sachez que pour le bois d'industrie, oui, c'est important quand même. Vous voyez que pour le bois d'industrie, c'est-à-dire les produits à courte durée de vie, relativement courte, ici, j'ai mis 25 ans, mais si je mettais moins, comme du demi-durée de vie, si je mettais 10 ans ou même 3 ans, on a quand même une courbe qui sont assez similaires, parce qu'en fait, tout le bénéfice, il est récupéré dans la substitution matériaux. Donc, mais on peut dire que ces bois d'industrie, pour ce qui est du stockage du carbone, a un bien meilleur comportement que le bois énergie. Celui qui est vraiment pas bon, c'est le bois énergie, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il faudrait éviter. Et vous rappelez ce que je vous ai dit en région parisienne, on n'a plus que du bois énergie. En fait, on n'a plus du bois d'industrie. C'est-à-dire qu'on a supprimé ces courbes-là et on a obtenu des courbes comme ça, qui dégradent le puits de carbone. Ça, c'est pour la courbe. En fait, c'est pour l'arbre typique qui représente toute la forêt française, toutes les essences. Comment, alors vous allez me dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'il en est du chêne? Ou qu'est-ce qu'il en est du hêtre? Qu'est-ce qu'il en est du pin? Est-ce qu'on peut les représenter par une moyenne? Comme je savais que vous alliez me poser la question, j'ai fait le calcul, c'est pas compliqué. Vous prenez les mêmes courbes, les courbes ne changent pas du tout. Il y a juste l'échelle de temps qui change. Donc, vous voyez, le 85 ans qui était l'optimal pour la référence moyenne, eh ben, pour un pin, ça va être plus bas. Et donc, là, l'équilibre, ce que j'appelle l'équilibre du bois énergie, c'est le moment où on rattrape en bois énergie la libre évolution. Et vous voyez, l'équilibre ici, donc c'était 240 ans, là c'est 113 ans, 212 ans, mais si vous prenez du chêne ou du hêtre, c'est-à-dire des feuillus, là vous avez des maximums de croissance moyenne qui sont à de l'ordre de 180 ans. Et là, il faut attendre 500 ans pour faire mieux que la libre évolution. Et on a beaucoup de massifs où ce sont des feuillus jeunes qui ont été coupés pour planter faire une coupe rase et planter du résineux. Donc vous voyez, ça c'était cette fable de l'ADEME. Et en fait, cette fable de l'ADEME, elle se base sur un principe. Elle se base sur un principe qui est celui-là. L'ADEME et d'autres veulent vous faire croire qu'il y a du bon CO2 et du mauvais CO2. Quand vous voyez la figure, vous voyez bien qu'effectivement, il y a du bon CO2, hein, et lui, il a l'air bon quand même. Alors, c'est qui le bon CO2? Ça, c'est la molécule de CO2. Vous voyez, elle est linéaire, c'est marrant, hein, et un carbone et deux oxygènes. Et le bon CO2, il sourit, il a été émis par du bois qui brûle, et il va être recapturé par la forêt. C'est le bon CO2. Et qui est le mauvais CO2? Ben, qui est le mauvais CO2 à votre avis là? On le voit bien qu'il est le mauvais CO2. Hein. Il est bleu. Quelqu'un m'a dit, ah oui, j'ai fait du rose pour le bon et du bleu pour le mauvais. Mais on voit bien qu'il est mauvais. C'est celui qui est émis par les chaudières à gaz et il reste dans l'atmosphère. Ah! Si ça, c'est pas bien. Hein. Ça, c'est le mauvais CO2. Voilà le schéma auquel on veut nous faire croire. Vous vous doutez un peu, je pense que c'est assez évident là, que la réalité est un peu ailleurs. Où est la réalité? Ben, la réalité, elle est là. Il n'y a ni bon ni mauvais CO2. Une fois qu'ils sont dans l'atmosphère, il n'y a pas moyen de distinguer l'un de l'autre. Ils sont neutres. Et en fait, aussi bien le CO2 émis par le feu de bois que le CO2 émis par la chaudière, il va être recapturé, mais par deux, soit par la forêt, soit par l'océan. Et il n'y a pas moyen de savoir si l'un est recapturé plus par la forêt que par l'océan. L'atmosphère se mélange très très vite. C'est pour ça que quand vous mesurez le taux de CO2 à un bout du globe ou à l'autre, vous obtenez la même valeur. Donc, en fait, voilà la vraie image. Alors, l'océan, alors, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais c'est quand même pas pareil de brûler une énergie fossile, parce que le charbon, il était solidement dans le sol, le gaz moins solidement dans le sol quand même, mais bon, il était dans le sol. Et là, on le sort pour toujours. Mais en fait, et il va être moins, l'arbre, c'est pas aussi solide que le rocher, mais en fait, si on regarde ce qui se passe dans les océans, c'est très solide ce qui se passe. Et c'est important de comprendre aussi ce qui se passe dans les océans. Dans les océans, en fait, vous avez deux pompes à carbone. Vous en avez un, c'est le CO2 qui se dissout naturellement au contact de l'atmosphère, un peu comme quand vous faites de l'eau gazeuse. Vous voyez bien que le gaz il va rentrer dans l'eau. Donc là, c'est ce qui se passe. Et vous avez, je vous rappelle, dans l'atmosphère, vous avez 830 gigatonnes de carbone. Dans les premiers 100 mètres de l'océan, vous avez 900 gigatonnes de carbone. Dans les profondeurs de l'océan, vous avez 37 000 gigatonnes de carbone. Donc, il y a une partie qui est absorbée là, mais c'est lent. Et il y a l'autre partie qui est avec la pompe biologique. Donc là, ce sont tout le plancton en surface qui, par photosynthèse, va absorber du CO2, va créer du carbonate qui va servir à faire ses coquilles. Et quand les petites bêtes meurent, en fait, le carbonate tombe dans le fond des océans et crée des sédiments, du calcaire. En fait, toutes les falaises calcaires sont faites de cette manière-là. Et vous obtenez ici, vous séquestrez le carbone dans quelque chose de tout à fait solide. Et vous voyez, vous avez 1750 gigatonnes de carbone qui sont dans des calcaires solides au fond des océans, solides ou moins solides. Et si vous regardez qu'est-ce que c'est le total des énergies fossiles à la surface de la Terre, en fait, c'est 1500 gigatonnes de carbone. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Est-ce que l'urgence, c'est empêcher le réchauffement climatique ou est-ce que c'est l'indépendance énergétique? Il y a des questions comme ça qui se posent. On peut faire certains choix, mais il ne faut pas faire les choix en disant quand on brûle du bois, on émet 12 grammes de CO2. Ça, c'est quelque chose qui fausse la donne complètement. Une question qui peut se poser aussi, mais je n'ai pas la réponse, et je ne suis pas sûr que les gens aient la réponse, c'est, vous voyez ici, on a 37 000 gigatonnes de carbone. Si on augmente de 1 degré la température du fond des océans, on perd 3% de la possibilité de stocker. 3% de 37 000 gigatonnes, c'est beaucoup. Hein, c'est plus que... c'est autant que ce qu'il y a déjà dans l'atmosphère. On double le CO2 de l'atmosphère. Alors, vous allez me dire, je vous ai donné un aperçu assez catastrophique du bois énergie. Vous allez jeter votre poêle à la sortie. Désolé pour vous, hein, pour Noël. En fait, c'est pire que ce que vous pensez. C'est bien pire. Surtout en région parisienne. En fait, le chauffage au bois est responsable de 6 000, d'une grosse partie des 6 000 décès prématurés en Île-de-France. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une étude de Santé publique France en 2020 qui a considéré que les particules fines émises par les différentes sources de pollution, les particules fines 2.5, sont la principale source de mortalité due à la pollution atmosphérique. On estime ce nombre à 40 000 décès par an en France, et 6 000 en Île-de-France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 70, on s'est ému du fait qu'on avait 10 000 morts par an sur les routes. C'est apparu comme un scandale national. Et on a mis en place des mesures, limitation de vitesse, ceinture de sécurité. On est tombé à 3 000. Mais ici, visiblement, ça semble n'émouvoir personne. Enfin, ça en émeuve certains quand même qui réalisent ça. Et alors, là-dedans, le chauffage au bois, c'est pour une bonne part. Vous voyez ici l'évolution des particules fines au cours des 15 dernières années. En fait, ça, c'est la partie due au transport. Et vous voyez qu'elle a considérablement réduit. Elle a été divisée par 3. C'est les mesures prises, les pots catalytiques et tout ça sur le transport, les limitations de vitesse. Donc, on a divisé par 3 les émissions dues au transport routier. On a divisé par 3 aussi les émissions dues à l'industrie. Mais si vous voyez le jaune, ce sont les émissions domestiques. Émissions domestiques dont 87% est due au chauffage au bois. Et elles, on n'a quasiment pas diminué. On a diminué de 30%. Les autres, on a divisé par 3, et là, on a diminué de 30%. Donc, alors, je vous dirais quand même que, et ça, c'est des bilans Air Paris, hein, c'est quand il y a eu dernièrement le programme pour l'analyse de la pollution atmosphérique en Île-de-France, en fait, le problème aussi, c'est qu'on vous dit, ah, mais les taux sont en dessous des taux européens. Seulement, les taux européens sont bien au-delà des taux de l'OMS. Et donc, si moi, on me dit que les taux européens donnent 40 000 morts par an en France, peut-être il faut réviser les taux européens. Hein, mais bon, voilà la situation. Bon, comme je vois que l'heure passe, je vais en arriver à mes dernières slides, qui sont une annonce en avant-première d'un colloque qu'on organise sur la forêt, les 21 et 22 mars, à l'Institut de France, hein, dans le Grand Auditorium, avec un beau programme. On a mis près d'un an à concocter ce programme, entre l'Académie des sciences, l'Académie de l'agriculture, avec beaucoup de gens invités, avec en particulier un focus sur la forêt de Chantilly, où il y a des gros problèmes de dépérissement dû au réchauffement climatique. Et puis, je vais vous donner quelques phrases de conclusion. Je ne fais pas toujours ça, mais là, histoire que vous ayez. En fait, la première, c'est que l'ADEME doit cesser de nous enfumer, hein, et de vouloir changer les lois de la physique. Je veux bien que l'ADEME fasse des directions administratives, tout ça, mais pas changer les lois de la physique. La combustion du bois dégage 367 grammes de CO2 par kWh et non 12 grammes. Et le problème, c'est que quand l'ADEME dit ça, c'est dans tous ses documents. Et il n'y a nulle part dans les tableaux de référence de l'ADEME la vraie valeur. On peut avoir 12 grammes, on peut avoir 24 grammes. Quand il y a un peu plus de transformation, c'est des pellets ou des choses comme ça. Mais il n'y a jamais les 367. Et chaque fois que vous établissez un bilan énergétique, on utilise ces chiffres-là de l'ADEME. Donc, ce n'est pas normal. L'ADEME n'a pas le droit de changer les lois de la physique. Et autre chose, il faut arrêter de subventionner le bois énergie. Le bois énergie, c'est pas... on peut en faire, c'est normal, il y a des débouchés. Le bois énergie, c'est ce qu'on fait quand on ne peut rien faire d'autre. Et en fait, le bois industrie, c'est quasiment le même que le bois énergie. Donc, normalement, on devrait pouvoir utiliser presque tout le bois énergie en bois industrie. Donc, ce qu'il faut transférer, mais il n'y a pas les industries de transformation, donc il faut transférer les aides du bois énergie, arrêter de crier sur tous les toits, chauffez-vous au bois, et les transformer en aide pour les industries de transformation, en produits de construction de longue durée de vie, hein, surtout si vous faites des panneaux d'isolation en laine de bois, par exemple. Donc, ce sera stocké pour longtemps, le carbone, dans le mur de vos maisons. Et là, quand je dis BEBI, c'est que, justement, il est en train de se faire un espèce d'amalgame entre le bois énergie et le bois industrie. Et aujourd'hui, l'équation, c'est BEBI donne BE. Il faut la renverser et faire BEBI donne BI. Et ne brûler que quand il n'y a pas autre chose à faire, que quand il y a vraiment... Normalement, partout, on vous dira... La filière bois respecte la hiérarchie des usages. C'est faux. C'est le vœu pieux. Donc la hiérarchie des usages, c'est bois d'œuvre, puis bois industrie, puis bois énergie. Mais je vous ai montré la réalité en Île-de-France, ce n'est pas le cas. Donc il faut renverser ça. Il faut éviter les coupes rases, parce que quand on fait une coupe rase, en plus, on détruit une partie du sol. Et je vous rappelle que le carbone, en plus, il y a des fois des coupes rases qui sont faites avec dessouchage. Alors là, c'est le pire de tout. On retire le carbone du sol. Et donc, viser une sylviculture privilégiant les gros arbres en vue d'utilisation en bois d'œuvre et en matériaux à longue durée de vie. Et il ne faut pas oublier que les meilleures économies d'énergie, c'est les émissions évitées. Et donc, il faut favoriser l'isolation des bâtiments, et encore plus quand c'est en laine de bois qui permet en même temps un stockage du carbone. Et c'est ma dernière slide. Je vous remercie. Là-bas. Ah, bien. Oui, il faut parler uniquement dans le micro, parce que comme c'est diffusé, si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entendra pas.
Super, merci. D'abord, merci beaucoup pour la présentation qui était fort intéressante. Merci pour cet exposé. J'ai plusieurs questions. Ce que je propose, c'est d'en poser quelques-unes et vous pouvez répondre à toutes ou à celles qui vous intéressent pour en prendre une autre, s'il y en a une autre qui vient. La première, c'était une question de compréhension. Dans une de vos premières diapositives, vous avez montré qu'il y a une partie des émissions qui sont relâchées après avoir été séquestrées par la forêt, qui viennent de la mortalité de fond. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait des émissions si le bois n'est pas brûlé. Donc, par exemple, est-ce qu'un arbre mort qui est enfoui, oui, par exemple, va émettre des émissions?
Les arbres morts se décomposent et réémettent le carbone.
D'accord.
C'est, en fait, en plus, on a des petits animaux qui les grignotent, tout ça, et ça réémet du carbone.
Et une partie est stockée dans le sol et une partie est réémise?
Une partie est stockée dans le sol, mais comme je l'ai montré, le stockage dans le sol, c'est un stockage très lent. Il n'y a qu'une petite partie qui va dans le sol. Donc, il y a une partie qui reste dans le bois mort, mais bon, ça, il n'y en a pas accumulation non plus. Donc, il y a la décomposition du bois mort qui relâche les 7 millions de tonnes par an. Voilà.
Super, merci beaucoup. Est-ce que je peux en poser une deuxième avant de rendre le micro ?
Oui, donc on y est.
Génial.
En plus, c'est bien, comme ça, on aura incrémenté le compteur parité dans les questions.
Bon, ben, s'il y a besoin, je repasserai après. Je me demande si vous savez s'il y a des objectifs d'augmenter les scieries en France après l'exposé que vous avez fait. Quelque chose que j'avais entendu, c'est notamment que le bois énergie pouvait être... on pouvait utiliser du bois qui avait été utilisé en bois d'œuvre ou en bois industrie après pour être brûlé. Mais je me demande si vous avez entendu parler de plans d'augmenter le nombre de scieries en France, et est-ce que vous pensez que ça aurait un impact sur la transformation de bois?
Oui, ça fait partie de ce que je dis ici, c'est qu'il faudrait effectivement... Mais en fait, très souvent, le problème, c'est que les gens ils se disent « Ah oui, mais c'est plus économique si on fait une usine gigantesque, ça va être plus efficace, on fait une usine gigantesque, une scierie gigantesque. » Et puis alors, la scierie gigantesque, il lui faudra des arbres d'un certain calibre. Et en gros, elle va demander uniquement des résineux. Et donc, ce schéma-là, c'est le schéma productiviste qui va favoriser la coupe rase, la plantation en résineux. Mais à côté de ça, ce qu'il faudrait, c'est le développement, et il n'y a pas que moi qui le dis, le développement d'industrie de transformation, donc de scierie, pour les feuillus. Parce que l'essentiel de la forêt française, c'est les feuillus aujourd'hui. Donc il faut le développer, et il faut le soutenir. Parce qu'en fait, il faut tenir compte de tous les coûts. Là, vous voyez, je vous ai montré que quand vous brûlez du bois, eh ben, vous dégradez l'environnement CO2 de la planète. Ben, ça, ce n'est pas pris en compte. Si on prenait en compte la séquestration, le coût de séquestration du carbone dans les exploitations forestières, ça changerait complètement la donne. Vous vous direz, au moins, à chaque fois que je stocke un peu mieux mon carbone, je récupère un bénéfice. Aujourd'hui, les gens le font gratuitement. Voilà, c'est ça le problème. Mais d'accord. Effectivement, il faut développer plus ces industries.
Permettez-moi d'en poser une petite question. Oui. Tu as montré une diapositive sur laquelle tu as comparé les résineux avec les hêtres et les chênes. Et j'ai cru comprendre que les résineux étaient beaucoup plus rentables en termes de protéines. C'était mieux d'avoir des résineux que des hêtres ou des chênes.
En fait, je l'ai comparé en montrant que ça poussait moins vite. Hein, je l'ai comparé ici, c'est là.
Oui.
En fait. Alors, j'ai pas les schémas économiques là, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même des pays où on cherche à faire. Ce qui c'est pas tellement le résineux. Ou le feuillu, l'alternative, c'est de choisir de faire des gros et des beaux bois par rapport à récolter des arbres jeunes pour faire en particulier du bois énergie. C'est là qu'est l'alternative. Faire des gros bois, même un Douglas, j'ai vu dans une forêt des beaux Douglas, ils sont impressionnants. Ça peut faire des mais qui ont des ils font 40 mètres de haut, c'est impressionnant. Et c'est sûr que ça va être utilisé en industrie de transformation. Maintenant, si un beau chêne, le bois se vend 800 euros du mètre cube. S'il part en bois de chauffage, en bois jeune ou autre, c'est 40 euros. Donc les sylviculteurs ont quand même un certain intérêt à faire des beaux bois, mais ce n'est pas assez. La filière tire trop dans le sens d'augmenter les coupes et faire du bois de chauffage pour que, et c'est cette partie qui est subventionnée, alors que l'autre partie, la sylviculture raisonnée, n'est pas subventionnée comme est subventionnée la coupe rase et replantation. C'est ça le problème.
Merci. Voilà, j'aurais deux questions. Une, c'est par rapport à l'ADEME. Comment a-t-il réagi à la fable de l'ADEME? Parce que je pense qu'il a dû réagir.
Je n'ai pas encore transmis au directeur de l'ADEME.
D'accord. Et la deuxième question, dans la courbe...
Mais on pourra lui donner un lien vers la vidéo. Là. Voilà.
Oui. Et dans la courbe des puits de carbone, des forêts, changement d'utilisation des terres, c'était juste avant de parler de Jean Covici, et puis sur le front d'Hugo Clément, il y avait le numéro 7. Voilà. Donc, il y a aussi pas mal de variations, des courbes qui montent vite et qui descendent
ici.
Après, oui.
Et est-ce vous savez ce que c'est, ça?
Non, mais justement.
Mais vous allez le deviner. C'est la tempête de 99.
D'accord.
On a eu trois fois la récolte annuelle qui a été décimée, donc c'est normal que le puits de carbone s'est trouvé un peu affecté. Quoi.
D'accord.
Mais c'est un accident, c'est ça.
Oui.
Et c'est lissé après par cette moyenne qui est prise sur 5 années. Donc le pic est sans doute plus fort.
Et les autres, on peut analyser aussi, donc je suppose.
Et puis il y a des variations, comme pour tout, hein, des variations conjoncturelles,
D'accord, mais c'était pour apprendre à maîtriser un peu plus.
Le pic ici, c'est la tempête de 99.
Merci. Oui, je voulais vous demander, l'ADEME, c'est bien une académie française?
Non, l'ADEME, ce n'est pas une académie.
Pardon,
c'est une agence.
Une agence française.
C'est comme le CNRS, oui.
Alors, la conclusion à laquelle vous arrivez par vos calculs, vous n'êtes sûrement pas le seul en Europe. Il y a d'autres associations en Europe qui s'occupent exactement des mêmes problèmes. Quelles sont les réactions des autres confrères?
Je ne sais pas en Europe, mais en France aussi, il y a des gens, effectivement, qui ont vu que que le calcul que propose l'ADEME est complètement délirant. Mais ils sont très peu écoutés, parce que cette espèce de... c'est un peu comme le roi est nu, hein, vous savez, tout le monde, il y a une fable qui est racontée, et puis tout le monde la reprend. J'ai discuté avec des gens, même du Haut Conseil pour le Climat, que je connais, et tout de suite, ils m'ont dit, ah oui, mais le bois repousse, dans une forêt bien gérée, il n'y a pas de problème. Ben non, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on mélange tout. Et on change les lois de la physique. On n'a pas le droit de changer. On peut faire une règlement administratif qui dit que dans tel calcul, on va tenir compte de la repousse, mais on ne peut pas dire que le bois n'émet que 2 grammes, que 12 grammes de
CO2. Oui, j'ai bien compris, mais dans les pays où il y a énormément de forêts, comme l'Angleterre, l'Allemagne éventuellement...
Il y a des pays où ils disent que ça émet 367 grammes par kilowattheure, hein, mais je n'ai pas le détail là.
Et l'ADEME ne réagit pas.
L'ADEME, en fait, ça correspond à des directives de comptabilité européenne. Donc, ils vont dire ça. Ils vont dire, ah oui, mais nous, on reprend tel alinéa de tel machin qui dit que quand on comptabilise à la fin les émissions, on a décrété une fois pour toutes qu'on faisait comme ça notre compte. Mais je ne sais pas, moi, la science, ça ne se décrète pas. On n'a pas le droit. Après, quand le vendeur de poêles, il vous dit que quand vous brûlez du bois, vous émettez 20 fois moins de CO2 que si vous brûlez du gaz, il fait référence à l'ADEME, qui ne donne que ce chiffre-là, et ils ne vont pas chercher plus loin. Parce que quand l'ADEME envoie son petit flyer aux municipalités en leur disant « Installez des chaudières à biomasse, vous n'émettrez que 12 grammes de CO2 par kilowattheure », le maire, il croit bien faire. Il se dit, ah oui, si je fais ça, je me bats pour limiter les émissions de CO2 dans la planète. C'est faux.
Oui, je vous demandais ça pour savoir comment réagissent les autres pays. Est-ce qu'ils font exactement la même chose ou est-ce qu'ils ont une politique qui est plus vertueuse, selon vos calculs ?
Encore une fois, mes calculs, personne ne va les contester, même pas l'ADEME, personne. Ne va les contester. C'est de la physique élémentaire. C'est comme si je vous dis, si je lâche ce truc-là, ça va tomber par terre. C'est à peu près le même niveau. Monsieur là. Ah oui, elle court plus vite que toi. Hein.
Merci pour votre présentation. Ce que j'ai compris, c'est que pour produire du bois d'œuvre, les 2/3 du bois sont en fait... transformés et deviennent du bois énergie, non ?
Oui.
Donc, si on prône une augmentation de l'utilisation du bois pour faire du bois d'œuvre, est-ce que ce n'est pas nécessairement une augmentation du volume de bois énergie ? Et ma question, c'est pour produire du bois industrie, quel pourcentage devient du bois énergie ?
Dans le bois industrie, c'est à peu près pareil. Il y en a un peu plus qui part, il y en a 30%, je crois. Il suffit de regarder ma première slide, je peux y revenir, mais le chiffre est là. Voilà. En fait, vous voyez, quand on fait du bois d'industrie, on a 30% qui part en fumée. Donc, en fait, c'est ça qui fait aussi que le bois d'industrie a un bilan qui n'est pas trop mal, parce que finalement, on utilise une plus grande partie pour faire des produits finis. Maintenant, pour répondre plus complètement à votre question, je vais reprendre les courbes de la fin. Et pour détailler un petit peu ce qui se passe quand on fait du bois d'œuvre, vous voyez, voilà. Donc je prends l'exemple de celui-là. On fait du bois d'œuvre. Donc on a coupé. En fait, le bois d'œuvre, le fait qu'il apparaît vertueux ici ou qu'il est vertueux ici, ça dépend beaucoup de ce qu'on va considérer comme émission évitée par la substitution matériaux. Vous voyez, ici, en marron, là, c'est le carbone stocké dans le bois d'œuvre. Donc, par rapport à la coupe, on n'a qu'un petit bout. C'est stocké dans le bois d'œuvre et dans le bois industrie qui a été fait à partir de ce bois d'œuvre. Mais cette partie va décroître parce qu'il a une durée de vie finie. Donc ça, c'est le stock dans le bois d'œuvre. Donc si on n'avait que ce petit bout-là, on n'aurait pas cette augmentation comme ça. L'augmentation vient du fait qu'on a dit aussi qu'en faisant le bois d'œuvre, en faisant la poutre en bois, on a évité de brûler du pétrole pour faire une poutre en béton. Maintenant, il faut savoir que ces courbes-là vont changer avec le temps, parce qu'en fait, là, j'ai utilisé des coefficients de substitution qui sont utilisés dans l'industrie, dans la filière bois. Parce que je voulais aussi, l'intérêt, c'est aussi de comprendre comment la filière bois font son calcul. Parce que si je veux discuter avec la filière bois, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas dire à quelqu'un de la filière bois, je ne peux pas leur dire, moi, je veux couper zéro arbre. Ça ne marche pas. Parce que j'ai pas compris. Il faut comprendre la logique aussi de ce qu'ils utilisent comme calcul. Et en fait, l'essentiel du caractère vertueux ici du bois d'œuvre vient de cette substitution matériaux. Vous voyez, c'est cette, vous voyez la part que prend ceci qui n'arrête pas de monter. Mais si maintenant l'industrie qui fabrique des poutres en béton divise par deux, améliore son bilan carbone et divise par deux les émissions carbone qu'ils font quand ils font leur poutre en béton, eh ben, ma marche ici va être divisée par deux. Donc on aura une moins bonne performance relativement à cause des émissions évitées qui seront moins importantes. Voilà. Mais si j'ai fait ces courbes, c'est prendre un schéma réaliste, parce que je vous dis encore, ce sont des schémas utilisés par les spécialistes de la forêt, mais qui permettent qu'ils soient suffisamment simples pour qu'on puisse comprendre toutes les composantes. Jean-Claude.
Oui, Jean-Claude Marcus, Université populaire de la biosphère. Bon, d'abord, un grand merci, parce que cet exposé, il est en béton, et on va pouvoir s'appuyer dessus. Je voudrais apporter une réponse concernant l'ADEME. Dans les années 2010, je me suis attaqué à ce préjugé de l'ADEME. Ça s'est arrêté très vite, puisque j'ai eu le choix entre la diffamation et cesser de dire ce que tu viens de dire. Donc, on a déjà un grand pas qui est franchi. C'était à l'occasion de la refonte de la centrale de Saint-Ouen, de la compagnie parisienne du chauffage urbain. Et on partait du principe, et tout reposait sur cette notion de substitution, que brûler du bois se substitue quasi intégralement aux énergies fossiles, et que comme le bois se renouvelle, il n'y a pas d'empreinte carbone. C'est une absurdité monstrueuse, et bravo de l'avoir montré, ce n'est pas pour autant que la bataille est gagnée. Ensuite, il y a deux points qui me paraissent accroître encore l'alerte que tu as faite. Premier point, si on tient compte des sols, alors le bilan coupe rase et replantation, sur laquelle d'ailleurs les arbres repoussent de moins en moins, est beaucoup plus important, parce que le stockage du carbone dans les sols est très important et est entretenu par la vie des sols. Et puis l'autre point qui concerne la qualité de l'air, c'est que brûler du bois, outre que ça produit des microparticules suffisamment fines pour pénétrer dans le système sanguin, mais aussi suffisamment fines pour ne pas être filtrées, ça produit également des composés organiques volatiles qui sont extrêmement nocifs. En tout cas, merci pour cet exposé, et je pense qu'on va essayer de s'appuyer dessus pour essayer d'attaquer, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, ce préjugé de l'ADEME qui, je vous le rappelle, fait loi. C'est-à-dire que si on s'attaque à ce préjugé, c'est bien un préjugé hein, au sens de l'âge classique, si on s'attaque à ce préjugé, on s'attaque à des dispositifs de politique publique qui ont été votés, qui ont été décidés, qui ont été mis en place par-dessus le marché. La quantité, là on dépasse le milliard, des aides que l'ADEME a fournies pour les chaufferies bois est telle que je ne vois pas. Moi, j'ai toujours discuté avec les nouveaux présidents de l'ADEME. Ils changent en permanence. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. L'inertie est phénoménale. Les investissements ont été faits.
Bon, je dois dire qu'à propos des investissements, moi, je sais qu'en 2010, j'ai changé ma chaudière. J'ai eu une subvention de l'État pour installer une chaudière à fioul à condensation. au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Et maintenant, les chaudières à fioul sont interdites. Donc on voit qu'il y a... On n'a pas... Ça ne veut pas dire que l'État fait n'importe quoi, mais ça veut dire qu'à un moment, les politiques, la compréhension des problèmes change et les aides elles peuvent changer du tout au tout. C'est une fois, on vous donne l'aide pour installer quelque chose et la fois d'après, pour le démolir. C'est...
Oui, bonsoir. Donc Sophie du collectif Sauvegarde des forêts d'Île-de-France. Merci Jacques pour ce très, très bon exposé. Donc pour revenir sur le bois d'œuvre, j'allais dire il faut aussi que l'industrie s'adapte à nos usages, nos modes de consommation. Et si on veut inverser, il faut aussi acheter du bois, plus du bois d'œuvre, moins du bois qui provient pour n'en citer qu'une, IKEA par exemple. J'habite dans une maison bois et par exemple j'ai dû faire venir du bois de Lettonie parce qu'il n'y avait pas suffisamment de constructeurs maison bois en France. Je voulais te poser une question sur le bois et énergie en Île-de-France. Les 54% la part de 54% en Île-de-France, est-ce que ça inclut l'autoconsommation?
Alors, donc là on est dans les. Voilà. Ici?
Oui.
La boîte. Je ne peux plus dire. Hein. Je ne sais plus d'où viennent les chiffres, mais je prends ce que j'ai pris, ces chiffres de la filière bois. Alors je sais que tu refais des calculs, mais. Mais il faut voir. En fait, le problème, c'est de voir d'où viennent. Le problème, c'est que c'est toujours difficile, ces estimations. Moi, je prends comme référence un document de la filière bois, et puis comme ça c'est peut-être que la part, commercialisée. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, quand j'ai établi ce document, ce que c'est. Donc, c'est-à-dire que ce sera encore plus important, la partie de... Oui, oui, mais peut-être j'en ai pris compte, je ne sais plus, honnêtement, là tu me poses une colle, je ne sais plus si j'ai... Je voudrais quand même rajouter sur quelque chose sur la forêt. Je voudrais rajouter que la forêt, et surtout en Île-de-France, surtout dans les régions densément peuplées, ne se limite pas à la sylviculture, et ne se limite pas à faire du bois d'œuvre, du bois industrie, du bois de chauffage. La forêt, c'est aussi un endroit où on va pour se ressourcer et où on tient à préserver aussi un aspect des paysages qui est important. Donc, quand on recherche s'il vaut mieux privilégier des grands arbres ou faire des petits baliveaux qui vont partir à la chaufferie, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et demander une sylviculture avec des... qui est... à couvert continu, mais qui est aussi proche de la nature, comme le font les gens en Allemagne, c'est aussi quelque chose d'important dans les endroits où la fonction sociale de la forêt est importante. Et un peu c'est dans ce cadre-là qu'au sein d'un certain nombre d'associations en Île-de-France, on a établi une espèce de programme commun des forêts d'Île-de-France et qui est, que Sophie a amené et qui est ici, pour ceux que ça intéresse. Sur des. Justement.
Ce sera la dernière question.
D'accord. Donc, je voulais savoir par rapport aux déchets qu'on fait dans les coupes d'arbres. Par exemple, toutes les ramures,
ouais.
D'habitude, on les laisse par terre ou on les brûle. Et est-ce qu'on ne pourrait pas les broyer et les remettre dans le sol? Est-ce que ça ne diminue pas?
Bon, pour ce qui est des. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est interdit de prélever les bois qui font moins de 7 cm. Normalement, ils doivent être laissés sur place. Et justement, pour ne pas complètement dégrader le sol forestier. Donc, on doit laisser... En plus, quand il y a une abatteuse qui vient, donc une grosse machine, si elle travaille de manière... précautionneuse, elle doit utiliser toutes ces têtes, toutes ces branches, pour mettre sur le sol, pour réduire la pression de la batteuse. Donc, des fois, les gens, on voit, on a des adhérents qui sont effarés parce qu'ils voient que l'entreprise forestière a laissé tout un tas de branchages. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, et qu'elle les a laissés au milieu du chemin. Donc ça doit être fait. Il n'y a pas besoin de les broyer. La partie, comme c'est du petit diamètre, ça va vite. Plus c'est petit, plus ça revient rapidement dans le sol.
Bien. Ben écoutez, merci infiniment, cher Jacques.
Et je vais terminer par une dernière slide. Tant qu'à faire, ben je passe à travers tout.
Hop. On espère que la rénovation va conserver
voilà. Et juste, voilà, ça c'est ma toute dernière slide. Donc en fait, en rappelant voilà, des associations, donc ça c'est celle que je préside, hein, au sein du collectif des Trois Pignons, on essaye justement de préserver, à la fois de discuter avec l'ONF, de ne pas du tout être en opposition, mais d'essayer d'être en concertation pour préserver les paysages. À l'échelle de l'Île-de-France, eh ben, il y a cette coordination des forêts d'Île-de-France, hein, qui est avec un site web que vous pouvez aller voir, qui est administré par Sophie, qui est ici. Et puis surtout, je voudrais souligner le travail exceptionnel que fait Canopée, en fait, parce que Canopée a une attitude qui n'est pas une attitude militante classique. Ce que j'appelle une attitude militante, c'est aller chercher dans la presse ou dans un article juste le truc qui intéresse la direction dans laquelle vous voulez aller à l'avance. Non, ils font des études sérieuses et leur politique, c'est d'essayer d'agir auprès du Parlement européen ou en France, auprès des pouvoirs publics, pour faire changer la loi. Donc il y a un travail sérieux qui est fait. Et si vous voulez voir ce QR code, vous verrez une autre vision de ce que je viens de vous raconter sous une vision un peu différente. Là, ce que je vous ai montré est beaucoup plus décortiqué. Là, ce sera une vision un peu plus impulsionnelle. Voilà. Et puis, je vous encourage. Voilà. Et à bientôt.
Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année.